Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 18h pile à Kinshasa, c'est l'heure d'un nouveau journal. 23 civils tués, bilan d'une nouvelle incursion des rebelles ougandais de l'ADF hier en Dengesa et à Tchabi, dans l'Ituri et à Vido, un village proche du Nord Kivu. Les victimes revenaient du champ, d'autres ont été tués à leur domicile. Ouverture aujourd'hui à Kinshasa de la DRC Africa Business Forum. Les discussions de deux jours portent notamment sur la transition écologique et énergétique de la RDC qui veut devenir le leader mondial dans la production des batteries et partant des voitures électriques. Notre invitée, c'est la ministre nationale du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Luseba, parle des activités qu'elle a menées en Mbujimayi dans le cadre d'une mission qu'elle a achevée hier au Kasaï oriental. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. 23 civils tués, c'est le bilan d'une nouvelle incursion des présumés rebelles ougandais de l'ADF en Dengesa et à Tchabi dans l'Ituri et à Vido, un village voisin situé à la limite avec le Nord Kivu. Des sources concordantes affirment que ce drame a eu lieu mardi pendant que les victimes revenaient du champ et d'autres ont été tués dans leur maison. Des habitants affirment que des casques bleus basés à Tchabi sont intervenus pour repousser ces assaillants, ce qui a permis de limiter les dégâts. Les autorités militaires ne se sont pas encore prononcées. À Bounia, le récit de Jean-Claude Loquillier.
C'est peu avant la tombée de la nuit que des crépitements de balles étaient entendus dans la périphérie du centre de Tchabi. C'est ce qu'indique une source locale contactée par la radio Kapi. Alertés, des casquets bleus de la MONUSCO se sont vite dirigés en direction de Ndengesa, d'où venaient des tirs. Ils se sont heurtés à une première présence des rebelles, apprend-on. Ici, les deux forces se sont affrontées avant que la force onusienne ne repousse l'ennemi. Ces combats se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée. Cette intervention rapide des casquets bleus a permis de limiter les dégâts, nous a-t-on indiqué. C'est ce matin qu'une équipe des responsables militaires des FARDC s'est rendue sur le lieu en vue de s'enquérir de la situation grâce aux moyens logistiques mis à leur disposition par la MONUSCO. Sur place, 23 corps ont été découverts, dont 17 civils de Tchabi et 6 autres de Vido. Leurs dépouilles ont été ramenées et inhumées ce mercredi à Tchabi. D'autres corps ont été acheminés à Vido. La plupart des victimes ont été tuées pendant qu'ils retournaient de leur champ. Elles ont été ligotées avant d'être fusillées ou tuées à la machette. N'ont pas encore reçu à voir la réaction de l'armée au sujet de ce énième attaque. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Notez qu'une autre double attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF a coûté la vie à 7 civils et l'incendie dit d'une dizaine de maisons hier soir dans deux localités de Kafeza et Vido entre le Nord Kivu et l'Ituri. Bienfait Baraka de la société civile parle d'un bilan encore provisoire. Il affirme que les FARDC sont intervenus pour éviter le pire. Jusqu'à ce mercredi matin, des tirs à l'arme automatique étaient entendus dans la région. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui ne confirmait pas la nouvelle, a promis de se prononcer dans les prochaines heures. Et puis, 4 morts, dont 3 militaires. Bilan des deux attaques menées la nuit dernière par des Maïmaï sur deux positions des FARDC à Boutembo et dans la chefferie de Bachou en territoire de Beni voisin. À Boutembo, c'est une correspondance de Grévis Salumou.
Mohamed Abdoul Kalemere III, chef de la chefferie des Bajou, relate que c'est vers 23h que des miliciens Maïmaï, non entièrement identifiés, ont pris d'assaut la position militaire basée à la barrière Kijeki, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Boutembo. Lors d'un échange de tirs avec les assaillants, 3 militaires ont été tués. Les miliciens ont récupéré les armes qu'ils portaient. Le porte-parole de l'armée dans la partie nord du Nord Kivu, le capitaine Anthony Malouchaï, que nous avons joué en téléphone, n'a ni confirmé ni infirmé cette information. Il promet de se prononcer à ce sujet dès que possible. Aux petites heures de ce mercredi, d'autres miliciens Maïmaï ont attaqué la position de l'armée récemment installée sur la colline Marungu au quartier Mukalangiroa dans la ville de Boutembo. Après environ une heure d'échange de tirs, un milicien a été tué et plusieurs autres blessés, révèlent des sources militaires. Le colonel Mosebo Epape Masebi, commandant des FARDC dans la ville, affirme que ses troupes maintiennent le contrôle de cette partie de la commune Vulamba, attaquée une première fois par les miliciens la semaine dernière. Boutembo, Grévis Salumou, Radio Kapi.
Dans la province du Olomami, la prison centrale de Malembankoulou est fermée depuis plus de 5 ans à cause de sa vétusté. Les détenus ont été envoyés au cachot du parquet secondaire du territoire. Le coordonnateur de la société civile locale affirme à Radio Kapi que ce cachot n'offre pas les bonnes conditions carcérales du fait que les détenus vivent dans la promiscuité. Claude Kiasongula plaide pour la réhabilitation de cette prison afin d'humaniser les conditions carcérales. Il a été joint par Jean Gandou.
Après la détérioration de la prison qui a été construite par les Belges dans le territoire de Malembankoulou, les autorités avaient jugé bon de déplacer tous les détenus et les mettre au cachot du parquet. Fort malheureusement, c'est une chambrette qui a au moins 5 sur 4 mètres, là où on trouve un bidon de 20 litres, là où les détenus font leurs grands et petits besoins, une condition qui est purement inhumaine. Et cette chambrette facilite l'invasion de plusieurs détenus. Et la dernière évasion date du mois d'août, là où il y avait au moins 4 violeurs et plus de 3 criminels. C'est pourquoi la société civile Force Vive lance un cri d'alarme à toutes les autorités politico-administratives de la province de songer à la réhabilitation de cette prison qui a été construite par les Belges, car les cachots dans lesquels les détenus sont gardés ne remplissent pas les conditions humaines. C'est pourquoi nous demandons cette réhabilitation de la prison.
Au sud Kivu, pendant 7 ans, la prison centrale du territoire de Kabarak est vidée de ses 250 détenus. Ces détenus ont été transférés aujourd'hui mercredi à la prison centrale de Bukavu pour accélérer les travaux de transformation de la prison de Kabarak qui deviendra désormais une prison de la juridiction militaire. Reportage à Bukavu de Cynthia Bachizina Bizana.
À la mi-décembre ou plus tard, la prison de Kabarak va accueillir uniquement les détenus civils et militaires jugés par les juridictions militaires. Au terme de ces travaux de transformation, ça sera la seule prison de moyenne sécurité dans la partie est du pays. Pour quel impact, Lydia Massika, chef de division de la justice au sud Kivu.
Cette construction se fera dans le but de désengorger la prison de Bukavu. Donc nous aurons obtenu la contagion de la criminalité qui se fait souvent entre les détenus, séparer les détenus civils des militaires, répondre aux normes d'incarcération, parce que la prison centrale est là aujourd'hui plus de 1700, alors qu'elle était construite pour 500. Sur le plan sécuritaire, nous aurons réussi à avoir une prison de moyenne sécurité en province du Sud-Kivu. Ce sera une première à l'Est. C'est que les murs seront blindés, les portes bien renforcées. Ce sera une prison. Les murs seront surélevés. Les miradors seront construits avec des standards vraiment internationaux. Et aussi, au sein même de la prison, il y aura toutes les activités qui facilitent la réinsertion d'un détenu.
Notez que la transformation de la prison de Kabarak a été rendue possible grâce à un projet de la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Coût total des travaux, $340,000. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. Les principaux animateurs d'institutions politiques de la RDC en mission d'apaisement auprès du cardinal Fridolin Ambongo. En effet, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre et le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité ont rencontré hier soir l'archevêque de Kinshasa. Ils en ont profité pour avoir un échange fructueux et ont coupé court aux folles rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux faisant état d'un conflit entre l'Église catholique et l'État congolais. C'est ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Le compte-rendu de Michel Kefindangoy.
Au bout de plus de 2 heures d'entretien, tenu dans l'ambiance plutôt détendue dans la résidence du cardinal Alimete, le président de l'Assemblée nationale a rappelé le caractère régulier et familier de ce genre de visites auprès du père spirituel, Christophe Mbosso.
Aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église. Nous allons continuer à collaborer.
L'archevêque de Kinshasa s'est pour sa part dit heureux et honoré de recevoir les grands animateurs des principales institutions du pays pour des échanges plutôt fructueux. Cardinal Fridolin Ambongo.
L'Église, comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne.
Présent à cette rencontre, le premier ministre Samalou Kondé, le président du Sénat Modeste Bahati, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État François Béya, ont tous démontré qu'il n'y a aucun problème entre l'Église et l'État. Il y a plutôt un grand intérêt de continuer à collaborer pour le bien-être de la population, ont-ils souligné.
Et puis, le conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo et le ministère des laïcs protestants dénoncent le mandat de comparution qui a été adressé à Jean Bosco Lalo, président du CALCC, par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Selon le porte-parole de ces deux organisations qui mènent des actions citoyennes, cette pratique qu'il qualifie de musellement des libertés est totalement dépassée. Maître Hervé Diakessé parle de la criminalisation de l'action citoyenne. Il ajoute que c'est une erreur grave en démocratie. Il a été joint par Alain Rongmouchi.
Nous pensons et avec tristesse que c'est une manœuvre d'intimidation d'une époque dépassée qui vise à criminaliser les revendications citoyennes qui sont de droit constitutionnel. Il n'y a aucune coïncidence entre ces mandats qui surgissent aujourd'hui et la réponse spontanée de la population d'aller manifester son mécontentement dans la désignation au forceps de Denis Kabima qui est contestée par l'ensemble des personnes qui veulent une CENI neutre. Cette manœuvre procède d'une logique qui avait déjà prévalu lors des entretiens avec les gouverneurs de la ville qui avaient voulu faire signer à Jean Bosco Lalo et à Jeff Pambi un document d'endossement de l'ensemble des risques et des dégâts qui pouvaient survenir lors de l'organisation d'une marche. Un document dont la légalité est totalement contestable et le caractère arbitraire est avéré. Ce document avait été refusé, donc on se rend bien compte que c'était un début d'un processus de criminalisation des revendications citoyennes. La marche du 13 novembre qui avait eu lieu, elle a eu lieu sur demande des CALCC et Milapro. En ce moment-là, le gouverneur n'a pas posé la question d'existence juridique, ce qui est un faux problème.
Économie à présent. La RDC se positionne comme pays solution dans la transition écologique et énergétique et ambitionne en même temps d'être le leader mondial dans la production des précurseurs des batteries électriques et partant des voitures électriques. Déclaration faite aujourd'hui à Kinshasa par le ministre de l'Industrie. C'était à l'ouverture de la DRC Africa Business Forum. On écoute Julien Paloukoukaungia dans ce propos recueilli par Alain Rongmouchi.
L'étude de Bloomberg démontre clairement qu'investir dans le secteur des batteries électriques aux États-Unis, le coût est estimé à près de 117 millions de dollars, alors qu'en Chine, le coût d'investissement dans le secteur des batteries est de 112 millions de dollars, pour citer par l'Europe, notamment en Pologne, dont le coût d'investissement dans le secteur des batteries est évalué à 65 millions de dollars. Par contre, pour le même type d'investissement, l'étude de Bloomberg a démontré que les coûts en République démocratique du Congo sont évalués à 39 millions de dollars, soit trois fois moins cher qu'aux États-Unis et en Chine. D'où le nouveau concept RDC Pays Solution, RDC Meilleure Destination dans le secteur des batteries électriques.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, le gouverneur du Kasaï déclare l'épidémie de la fièvre jaune dans la zone de santé de Boulapé en territoire de Mweka. Dieudonné Piémé affirme qu'il s'agit des résultats du prélèvement sur une personne qui présentait des signes de la maladie. Et pour éviter la contamination, il invite ses administrés à assainir leur milieu et à dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il a été joint par François Gadima.
Nous avons enregistré un rapport en provenance de la zone de santé de Boulapé dans le territoire de Mweka. Des informations indiquant qu'il y avait une personne qui présentait des signes qui s'apparentaient à la fièvre jaune. Et comme d'habitude dans ce genre de situation, nous avons instruit qu'on puisse faire des prélèvements. Et après ces prélèvements, nous les avons envoyés dans les laboratoires. Lesquels laboratoires ont envoyé des résultats qui se sont avérés positifs à la fièvre jaune dans le territoire de Mweka. Une personne âgée de 46 ans. Pour l'instant, les mesures que nous avons prises, c'est pratiquement la sensibilisation de la population. Nous avons invité la population à la prudence et à se doter des moustiquaires imprégnés pour empêcher la contamination. Nous les avons invités à demeurer plus prudents. Nous avons demandé qu'on puisse orientent tous les suspects vers des centres les plus outillés.
Actualité internationale.
Violence meurtrière ce mercredi matin au Cameroun, précisément dans la région à majorité anglophone. Trois adolescents et une enseignante ont été tués dans une attaque de leur école à Ekondo-Titi, un établissement secondaire gouvernemental. Cette attaque, dont l'armée n'a pas été revendiquée cependant, des témoins mettent en cause les séparatistes. En Éthiopie, pendant ce temps, alors que la coalition rebelle s'approche davantage d'Addis Abeba, le gouvernement a entamé le recrutement de nouveaux soldats. Ce mercredi, dans la banlieue de la capitale, environ 1200 jeunes se sont engagés dans les forces de défense du pays. Enfin, sachez que le ministre de la Défense nationale de l'État hébreu, Benny Gantz, est à Rabat pour une visite historique. Cette visite intervient un an après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. L'occasion pour les deux États de signer conjointement des accords de coopération sécuritaire.
L'invité.
Notre invité, c'est la ministre nationale du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Louseba, parle des activités qu'elle a menées en Boujimaï, chef-lieu de la province et du Kasaï oriental, dans le cadre d'une mission qui s'est achevée hier. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Madame Gisèle Ndaya, bonjour. Vous venez de clôturer votre mission au Kasaï oriental. Quel bilan faites-vous de cette mission?
Mon bilan est largement positif parce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais assigné durant mon séjour ici au Kasaï oriental, précisément à Mbujimaï. Donc quand je suis arrivée, je devais d'abord commencer par lancer la campagne Tolérance Zéro, comme vous le savez. C'est une campagne que le chef de l'État a lancée depuis le mois de juillet. Et cette campagne ne devait pas seulement s'arrêter à Kinshasa, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après le lancement à Kinshasa, nous avons fait le Katanga. On a été à l'Est, Ituri, aussi Goma et Beni. Et aujourd'hui, je suis en Mbujimaï. Par rapport à la quinzaine de la femme rurale, j'avais amené des kits pour accompagner les femmes maraîchères. J'avais des bêches, il y avait des pagnes pour les femmes, des arrosoirs, des semences, des intrants pour permettre aux femmes maraîchères de voir comment travailler. Il y a eu aussi une formation sur l'autonomisation de la femme. Comme vous le savez, dans le programme du gouvernement, nous avons le 14e pilier, qui est pilier destiné au ministère du genre, famille et enfants. Dans ça, nous parlons de l'autonomisation de la femme. Et c'est comme ça qu'il y a eu une formation de renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat féminin. Cette formation a été sanctionnée par un accompagnement financier aux femmes qui ont été formées.
Par rapport à la campagne que vous avez lancée, Tolérance Zéro, que peuvent être les obstacles à cette campagne?
D'abord, par rapport à la province du Kasaï oriental, comme vous le savez, la femme, elle est toujours minimisée. Il y a aussi les us et coutumes ou la pesanteur culturelle qui pèse sur la femme. Il y a aussi les moyens financiers qui ne nous permettent pas d'atteindre tous les coins de la République démocratique du Congo. Parce que ici en ville, nous pouvions facilement faire passer le message par la voie des ondes. Mais en dehors de la ville, dans les coins reculés, comme je l'ai dit, il faut se déplacer pour faire la sensibilisation. Et c'est vraiment une difficulté parce qu'il y a un manque d'infrastructures. Nous n'avons pas de moyens de déplacement. Il y a aussi la violence conjugale, surtout ici chez nous en Mbujimaï. Il y a les insultes, il y a les hommes qui continuent à taper sur leurs femmes. Il y a beaucoup de choses. Ça intervient, mais petit à petit, moi je crois que nous allons quand même arriver à éradiquer totalement cette violence dans la province. Il y a les viols, comme vous le savez. Le ministère du genre, famille et enfants a organisé une structure que nous appelons le CICM. Cette structure, c'est pour d'abord accompagner les personnes violées. Nous avons les femmes, nous avons les jeunes filles. Il y a un problème d'abord psychologique que nous devions d'abord aborder avec la famille parce que la personne, elle est traumatisée, elle a connu une situation qui n'est pas normale. De deux, nous devons approcher les juristes pour qu'ils essayent quand même d'accompagner la victime parce qu'elle doit se retrouver dans ses droits. Troisièmement, du côté sanitaire, parce que dans cette violence, il y a de ces jeunes filles qui se retrouvent un peu abusées. brisés. Et il y a aussi d'autres qui connaissent des déchirures et d'autres qui ont des infections. Alors, il y a aussi le côté sanitaire qui doit intervenir. Et enfin, la réintégration de la victime dans le milieu social. C'est à ce moment-là que nous intervenons plus pour l'accompagnement de la victime. Voilà un peu comment nous procédons pour que même au niveau du quartier, même au niveau de la commune, même dans la ville, qu'on puisse dénoncer. À Kinshasa, il y a même des lignes rouges qu'on a mis en place pour que les victimes puissent se manifester. Et cela se fait toujours en clandestinité parce que une fois que le bourreau est informé de la procédure, peut-être elle peut encore revenir pour la deuxième fois pour en abuser davantage. Alors, il y a vraiment un accompagnement et pour qu'on arrive quand même à atteindre le résultat que nous attendons par rapport à la violence.
Vous avez rencontré plusieurs structures féminines basées au Kasaï oriental. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces échanges?
J'ai reçu beaucoup de femmes. J'ai demandé aux femmes d'être debout. Les femmes, qu'elles ne soient pas toujours derrière, la femme ne se sent pas vraiment autonome. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement financier pour qu'elle arrive quand même à s'épanouir. Voilà le problème que j'ai retrouvé partout dans les structures féminines.
Madame Gisèle Ndaya, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, la ministre nationale du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Louséba, était interviewée en Mbujimayi à la fin de sa mission officielle au Kasaï oriental. Elle était interrogée par Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élise Chikota Mwamboui qui l'a coordonnée sous la supervision éditoriale d'Alain Irung Mouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.